Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. J'ai peut-être deux sujets aujourd'hui. Hier, c'était chaque fin de semaine sur dans mon club privé là, Patreon, que vous pouvez rejoindre, bien entendu, en allant sur marcboiler.com. J'ai toujours un sujet, si on veut, j'appelle ça une vidéo conseil, communication en général. Pendant le mois de mai, parce que j'ai fait ça, j'ai commencé ça, c'est-à-dire c'est des mois thématiques. Parce que en début de semaine, j'offre des sujets à mes membres, puis ils votent. Puis là, ben, je parle là-dessus. Puis là, j'ai fait, au lieu de renouveler toutes les semaines, on va faire une thématique. La thématique du mois de mai, c'est comment se débarrasser de quelqu'un. Comment flusher un collègue, comment flusher un ami de façon virtuelle, dans la vraie vie, etc. C'est que j'ai passé à travers ça en trois semaines, si tu veux, tu sais. Parce qu'il y a une façon de faire, tu sais, c'est pas genre « toi d'abord ». Puis alors, des anecdotes très personnelles, parce qu'à un moment donné, avec l'âge, ben, tu vis, tu perds des amis, tu perds des sortes d'affaires, tu sais. Et puis là, ben, le week-end qui vient de passer, 30 mai, c'est comme un genre de cinquième week-end de mai, là, tu sais, c'est comme un mois qui étire. Puis j'ai parlé de réputation. Puis c'est venu par deux affaires qui sont passées pendant la fin de semaine, qui m'ont interpellé au bout. C'est que je fais juste une courte parenthèse, c'est comme un genre de premier sujet, mais je veux quand même vous en parler. J'ai écouté le film Headhunter pour la xème fois, qui est un excellent film norvégien, qui n'est pas traduit, donc c'est sous-titré. Alors, ça peut être gazant quand on n'est pas habitué, mais c'est un trailer vraiment, vraiment, vraiment bon. Les Scandinaves sont rendus hallucinants dans les trailers. C'est vraiment bon. Puis à un moment donné, il y a une scène où ce que le gars, faire une histoire courte, le gars et son chum, ils volent des œuvres d'art chez des gens riches. Son chum travaille pour une compagnie genre assurance, les alarmes comme chez Vidéotron, mettons. Puis l'autre, c'est un chasseur de tête. Fait que lui, il recrute des gens pour les placer auprès de ses clients. C'est un vrai chasseur de tête. Mais dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'en entrevue, il enquête pour savoir s'ils ont des tableaux. Puis quand est-ce qu'ils sont pas là? Ça fait que, c'est toutes des questions naïves. Ah oui, tu travailles où? Comment? C'est quoi ton horaire? T'as-tu un chien? Ah oui, t'investis-tu dans certaines affaires? Puis ça fait que là, tout à coup, il y en a un, comme de raison, qui fait comme, ben oui, moi j'ai un tableau chez nous. Ça fait que lui, dans ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il sait c'est quoi le tableau, il le trouve sur Internet, il fait faire un faux. L'autre coupe l'alarme, il arrive, puis il remplace le faux, le vrai par le faux. Ça fait que, le propriétaire, lui, il continue à penser que sur le mur, c'est un vrai, mais dans la vraie vie, c'est un faux. Et là, il explique la chose suivante. Dès le début du film, il dit à un candidat qui est dans son bureau, il dit « Vois-tu les peintures qui sont en arrière? » Puis là, tu vois trois peintures faites sur le long, sur le haut, là. Tu sais, comme genre trois rectangles à la verticale. Puis avec des couleurs différentes, puis des petits bonhommes, genre bonhomme allumette, là. Vraiment bien ordinaire. Ça fait qu'il dit « Tu vois ça, là? » Le peintre, là, il s'appelle Raxignon, là, mettons. Bon. Il dit ça, ça vaut 250 000 euros, ces peintures-là. Puis il dit, regarde, c'est monochrome. C'est vrai, là. C'est juste, mettons, le fond rouge, la tête du bonhomme bleu. C'est banal. Il dit, qu'est-ce qui fait que cette peinture-là vaut 250 000 euros? C'est la réputation du peintre. C'est complètement volatile. C'est rien de concret. Ça se mesure mal, ça se monétise, mais jusqu'où sa réputation est à la fin? C'est parce qu'il dit, moi, ma job est basée 100% là-dessus. C'est-à-dire que mes clients, quand je leur dis, j'ai passé plusieurs entrevues, je t'envoie quelqu'un pour ton poste de vice-président, ils m'écoutent. Pourquoi? À cause de ma réputation. Il n'y a rien d'autre. Tu peux avoir ce qu'on appelle le track record, là, c'est-à-dire que, règle générale, quand je fais une recommandation, ben, un an, deux ans, cinq ans plus tard, la personne est effectivement la bonne personne dont on l'a trouvé. Mais ça build quoi? Ça build une réputation. Et je croise ça avec une autre nouvelle où est-ce qu'il y a un candidat à la mairie de Montréal, un dénommé Morissette, je pense. Mais là, voyez-vous, j'aurais dû prendre le temps de regarder ça. Ça, c'est mon erreur à matin, là. Puis là, ben lui, il a eu une approche par un journaliste de la presse pour savoir qu'est-ce que vous pensez d'eux, pour vous présenter ta affaire. Puis en enquêtant sur lui, ils ont réalisé que sur son fil Twitter, le gars, il a des petites tendances complotistes, t'sais. Et là, il y a un exergue, c'est-à-dire une portion mise en évidence dans l'article, là, en plus gros, qui dit, je vais être très, très clair, c'est le monsieur en question, qui dit, je vais être très, très clair, là, moi, là, je réponds à toutes à toutes les demandes du gouvernement par rapport aux mesures sanitaires, je mets mon masque, telle affaire, tu sais. Mais je me disais à moi-même, man, justement, c'est pas... Surtout quelqu'un que tu dis, OK, je vais voter pour ou contre, c'est pas parce que tu me dis que tu te plies aux mesures, mais que tu ne crois pas ou que tu n'adhères pas vraiment, que tu passes par-dessus. Moi, à partir du moment où quelqu'un me dit, lui, là, il a retweeté des affaires de complotistes, là, c'est terminé, là, c'est fou, c'est terminé. Ça veut dire que c'est un pas de jugement. Fait que si c'est un pas de jugement, pourquoi j'irais voter, même s'il me dit « Oui, non, mais j'arrête à lumière rouge. » T'arrêtes à lumière rouge, mais dans la vraie vie, tu penses que le gouvernement te crosse parce qu'ils mettent des lumières rouges pour que tout le monde arrête, puis gaspille du gaz, puis ils sont en lien avec des balivernes. Puis là, comprenez-moi bien, définissez bien c'est quoi du complotisme. C'est pas de remettre en question ou de se demander si la gestion du gouvernement, d'une compagnie ou autre, est parfaite. Ou ça n'a rien à voir. Par définition, il n'y a pas un gouvernement dans cette pandémie-là qui a fait que la bonne affaire. C'est impossible. C'est bien trop lourd à gérer. Ça fait que quelqu'un peut dire, « Bon, moi, je pense que je n'aurais pas fermé un restaurant. » Tout ça, moi, c'est pas des complots. Des complots, c'est croire qu'il y a une motivation cachée dans un dessein différent. C'est ça, un complot. C'est pas obligé d'être un complot international avec des extraterrestres. C'est juste de penser... C'est un peu... Complot et manipulation, on n'est pas loin. Mais complot, il faut vraiment penser que les intentions en arrière sont totalement cachées puis correspondent à un autre agenda. C'est ça, du complotisme. Moi, je suis embarqué dans rien de ça. Ça fait que moi, quand je sais ça, comprenez-vous, sa réputation est faite, c'est réglé. Je peux pas concevoir. Or, dans les commentaires, parce que ce gars-là a mis sur Twitter l'article en question avec un commentaire, il y a une bonne femme qui répond « Ouais, puis si t'es complotiste, ça change quoi? » C'est pour vous montrer. C'est ça que je veux vraiment illustrer, c'est que c'est une question de réputation. Une réputation, c'est quelque chose qui est totalement intangible puis qui n'est pas universel. Si vous dites « Je suis avocat », c'est pas une réputation. Cet homme est réputé avocat. Non, il est membre du barreau. Ça veut dire qu'il fait ses 30 heures ou 2 ans de formation continue. Il paye sa cotisation. Il a fait un bac, puis il a fait le barreau. C'est tout. C'est pas une réputation, comprenez-vous? Mais la réputation, c'est flottant. Alors, un va dire, il a la réputation d'être complotiste. Je m'en fous, c'est pas grave. Moi, je pense qu'au contraire, tous les gouvernements sont pleins de marde, puis t'as l'affaire. Ou, comprenez-vous? Ou moi, qui est comme, hein? À partir du moment où je pense que c'est comme... Moi, je veux rien savoir. Si je te présente mon comptable. Ouais, lui, il pense que c'est des complots de patins. Mais je veux jamais... Je ne veux pas contribuer à rien d'aider qui que ce soit qui est avec une pensée de même. Ça fait que je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Si vous voulez en savoir plus sur comment on build puis comment on scrape une réputation, ben abonnez-vous à mon Patreon parce que c'est le sujet de cette semaine. Puis je trouvais que c'était très juteux. Ça fait que c'était ma petite intro. Maintenant, mon vrai sujet, c'est comment bien vieillir, parce qu'il y a un article de la presse d'une journaliste qui est une éditorialiste dont j'ignore toujours le nom. Et là, voyez-vous, je vais me lever pour aller le voir, parce que là, ça va faire de vous dire lui puis elle, puis de pas savoir, là. Ah non, mais c'est Chantal Guy, OK, c'est pas elle, parce qu'il y en a une autre. Chantal Guy, je sais c'est qui. Elle m'avait démoli, elle était venue voir mon premier show en 2004. Puis, mais j'ai rien contre pour ça, hein. C'est pas de même que je marche, là. Donc, elle écrit « Lutter, boomer ». Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que c'est les baby boomers de l'époque, quand elle était jeune, qui sont maintenant rendus des 75 et plus, etc. Puis là, CHSLD, puis résidence privée, RPA, patente. Puis bref, son sujet, c'est comment on vieillit. Puis on veut-tu vieillir en étant chez nous avec de la cistana? Est-ce qu'on veut vieillir en s'en allant dans une boîte en disant « Bon, ben toi, t'es vieux, t'es parqué là, blablabla. » Puis ça me fait penser à la question « C'est quoi bien vieillir? » Parce que ça varie d'une personne à l'autre. C'est intéressant en crime. Moi, je pense qu'il y a deux volets à bien vieillir. Il y a deux volets. Le premier, c'est de préparer cette période-là. Alors, évidemment, tout le monde va vous parler à la Pierre-Yves McSween. Préparation financière. Oui, absolument. Je vois pas le trip de quelqu'un qui dit « Moi, je vais vieillir pauvre, ça va être fantastique. » Mais tu as aussi, au niveau de la santé, puis ça se prépare aussi de longue haleine. Puis au pire, si ça se prépare pas de longue haleine, il est jamais trop tard pour dire que là, je vais mieux faire que la veille. Mais si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous faites attention à votre gestion du stress, bon, on les connaît toutes. Je ne vais pas commencer à faire mon gourou de yoga, là. Mais il reste que ça, ça se prépare aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit quelqu'un qui vieillit bien puis quelqu'un qui vieillit mal. Puis c'est drôle, hein, mais tu peux être très, très riche puis très, très mal vieillir. Parce qu'à un moment donné, si t'es constamment dans les excès, etc., bon, blablabla. Mais il y a aussi un autre volet qui est très anti Pierre-Yves McSween, et ce que je suis pas, là, vous comprenez, mais qu'à la rigueur, c'est comme c'est la réponse que je donne à Pierre-Yves tout le temps, c'est que c'est beau de dire « Ah, ben quand t'as 20 ans, mets tout l'argent de côté, comme ça, à 45-50, tu vas avoir plus de latitude. » Ah, ben c'est mathématique, c'est indéniable. Sauf qu'il y a un coût de renonciation qui fait en sorte que le voyage à Acapulco avec mes chums à 20 ans que je fais pas, ben je le referai pas à 30 puis à 40. Je le referai pas. Pis c'est vrai même pour les occasions, le fun, le loisir, party, mais c'est vrai aussi pour ce qui est sérieux. Mon père, c'est lui, grâce à un commentaire qu'il a fait, que j'ai fini mon barreau. Quand j'étais au bac, j'avais commencé à faire des spectacles à l'Université Laval, puis c'était ça que je voulais faire dans la vie. Puis quand j'étais jeune, je faisais des sketchs devant la classe au primaire. Moi, j'étais fait pour être un entertainer, puis un gars de médias, puis tout ce que vous connaissez, là, puis de un communicateur, là, tu sais, version très, très large, là. Bon. Puis à un moment donné, j'avais dit à mon père, « Je ferai pas le barreau. Je le ferai plus tard, parce que là, je vais vraiment avancer dans mes shows, puis tout ça, puis je vais aller rester à Montréal, puis je vais appliquer à Juste pour rire, puis tout. » Puis il m'avait dit, « Si... » Très simple, hein? Il m'avait dit, « Si tu fais pas ton barreau-là, tu le feras jamais. Parce qu'il va arriver plein d'affaires, puis finalement, tu le feras jamais. » Puis puis jusque-là, ça me parlait pas. Parce que moi, j'étais comme... Et là, il m'a dit la phrase qui tue. Parce que moi, je voulais déjà compter, je pense. Moi, j'étais à l'endroit juste par orgueil. Je suis pas allé là parce que ça m'intéressait. Je me disais, tant qu'avoir un titre, je vais avoir un titre qui flash. Puis j'étais pourri en maths. C'est quoi, qu'est-ce qui reste? Droit. Je vous niaise pas, là. Je le regrette pas, mais motivation pour le moins tordue. Et là, compte tenu de ma motivation, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, si tu finis pas ton barreau, tu le feras jamais. Tant un qui me parle pas tant. Et le clou dans le cercueil, si tu fais pas ton barreau, toute ta vie, quand le monde va dire « C'est quoi, toi, ta formation? » Tu vas dire « J'ai mes études en droit, etc. » Mais tu pourras jamais dire « Je suis avocat. » Oh ben, calvasse, t'ingarde. Ping! Le doigt sur le cœur, la flèche dans l'ego direct. Puis j'ai tout fait, puis j'ai tout fini. Puis c'est comme « Bravo, bravo, bravo. » Quel excellent conseil qui, encore une fois, n'a pas touché sur la rationalité des choses, mais est venu vraiment peser sur le bon bouton. Ça fait que, bref, ça fait que tout ça pour dire que bien vieillir, pour moi, c'est cet autre volet-là. C'est le volet du « il n'y a pas deux minutes à perdre ». Ça, c'est mon ami Denis Nadeau, policier à Québec, qui n'arrêtait pas de répéter ça, puis qui dit que c'est un de ses oncles qui avait dit ça. Il dit, moi, il y a une maison qu'on m'a donnée, je me prêtais, j'avais 20 ans. Il dit, je me prêtais à sortir, on était le samedi soir. Puis il me regarde, puis il dit, Denis, il dit, tu t'en vas-tu rencontrer une fille? Il dit, ouais, ouais, ouais. Il dit, c'est ça. Il dit, j'ai connu une fille, je m'en vais rejoindre. Il dit, regarde-moi bien. Il dit, c'est excellent parce qu'il n'y a pas deux minutes à perdre. Puis cette phrase-là est extraordinaire. Puis tu peux pas dire que tu vis en disant qu'il n'y a pas deux minutes à perdre, mais tu es tout le temps en train de penser à tes REER. Je m'excuse de vous le dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir. Ça veut dire que tu ne peux pas penser à ça plus que de t'assurer que tu ne perds pas deux minutes. Ça fait que tout le défi est là dans bien vieillir. C'est-à-dire, c'est préparer une vieillesse dans le sens du monde en se disant, ça ne me tente pas d'être croulant, malade, pauvre. Puis c'est de ne pas oublier que le temps, il passe, puis tu ne peux pas le récupérer. Mercredi, là, la plus jeune des sœurs de ma mère, elle s'en va recevoir l'aide médicale à mourir. Elle a la maladie de Lou Gehrig, là, la SLA, je pense qu'on appelle. Puis là, ben, je veux dire, écoute, elle a vu ça, ça a tombé vite, vite. Là. Je te dirais, depuis 3 mois, là, ça a comme vraiment dégradé. Puis elle a dit, moi, regarde, c'est non. La réponse, c'est non. Puis je vais vous dire, c'est une expérience très bizarre parce que j'y ai écrit en fin de semaine. Ça fait que tu dis quoi? Eh hey boy! J'ai pris du temps, hein? Je savais pas trop... Je savais pas... Tu dis quoi à quelqu'un qui c'est comme... C'est ta lettre d'adieu, tu sais? C'est quelque chose, je vais vous dire. Oh, genre, j'ai braillé tout. J'ai trouvé ça très, très troublant. Puis elle m'a répondu. Puis, qu'est-ce qu'elle me dit, tu penses, comme dernière phrase? Profite de ta vie. Et voilà. Ça fait que c'est un combat entre préparer préparer sa vieillesse puis pas perdre 2 minutes. Moi, je pense que j'ai choisi un peu plus de pas perdre 2 minutes. Je regarde là que j'ai réalisé tellement d'affaires qui ont marché, qui n'ont pas marché, mais je les ai faites. Je les ai faites. C'est comme si, je pense, jeune, moi, j'ai pogné cette vibe-là. J'ai pogné ça. Je me souviens, j'étais au Cégep, puis j'étais à Québec, puis je me disais, « Hey, les plaines d'Abraham, je profite pas de ça pantoute. On a ça chez nous, c'est malade. » Puis j'ai commencé à y aller avec mon chien, tout seul, avec du monde, avec mon chum d'Orion qu'on allait là. Tous les mercredis, on allait boire à Tour Martello. On dirait que ça date du Cégep, une espèce de prise de conscience que, ici, maintenant. Puis, tu sais, souvent, là, ici, maintenant, ça vient pas nécessairement avec de l'argent. Faut pas nécessairement que t'allonges. C'est comme juste de dire, aujourd'hui, là, il y a du fun, puis ce fun-là, là, je suis là, là. Puis, je sais pas, je peux pas. Ça me tente pas d'être un donneur de leçons zéro. Je fais juste vous dire que je suis convaincu qu'il y a ces deux paramètres-là. Puis, le défi, c'est de les marier. Voilà. C'est bien préparer sa vieillesse, mais il y a pas 2 minutes à perdre. Chacun fait de son mieux. Salut!